This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Avertissement, cet épisode évoque des violences sexistes et sexuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince et athée. Marie sans filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode une fois par mois. Dans ce 50e épisode, c'est le 50e épisode, incroyable, je vous explique pourquoi je regrette d'avoir porté plainte. J'ai subi 2 viols, plusieurs agressions sexuelles et d'autres violences sexistes dans ma courte vie, 28 ans. J'ai porté plainte 6 fois contre 6 hommes différents. Plusieurs années après, je fais le constat que, petit 1, ça n'a servi à rien, puisque les agresseurs agressent toujours. Petit 2, ça m'a fait plus de mal que de bien, puisque la police et la justice française maltraitent les victimes. Je vous confie mon point de vue dans cet épisode. Mais avant de commencer à vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast. Aujourd'hui, c'est Kyusu qui a écrit le 21 avril 2021, ça remonte. Très rafraîchissant ton podcast, Marie. J'adore ton authenticité et ton franc-parler qui m'ont fait sourire, ou plutôt rire, à plusieurs reprises. Merci beaucoup pour ce commentaire. Aujourd'hui, on va pas rire. Enfin, peut-être que si, puisque il faut avoir de l'auto-dérision pour porter plainte et pour raconter ça. Franchement, c'est un délire. Voilà, revenons au sujet du jour. Si vous voulez laisser un commentaire sur Marie sans filtre, sur le podcast Marie sans filtre, allez-y. Je vous citerai dans un prochain épisode. Le sujet du jour, je regrette d'avoir porté plainte. Alors déjà, je vais raconter brièvement les agressions subies. Bon, pas toutes, hein. Mais je vous ai déjà dit, donc il y a eu 2 viols. Il y a eu des agressions sexuelles, violences conjugales, harcèlement sexuel au travail. Harcèlement sexuel, harcèlement physique, harcèlement moral. Ouais. Mais bon, je vais pas tout raconter, je vais raconter juste la première, puisque en fait, je raconte déjà pas mal de violences dans les épisodes précédents. Donc voilà, si vous voulez des détails, vous allez dans les épisodes précédents. Mais la première fois que j'ai subi une agression, une violence sexuelle dont je me souviens, j'avais 19 ans. Donc quand même, quand on sait que je crois que c'est 80% des violences sexuelles qui sont subies avant l'âge de 18 ans, puisque la majorité des violences sexuelles sont vécues dans l'enfance, je crois que c'est 80%. Bien moi, franchement, avant 18 ans, j'ai pas de souvenirs. J'ai pas de souvenirs. Et à 19 ans, j'étais sur une plage et il y a un mec qui m'a... Je marchais avec ma famille en maillot de bain et il y a un mec qui m'a donné une fessée, qui m'a claqué les fesses. Genre un mec qu'on a croisé, qu'on connaissait pas. Ça m'a traumatisée. Surtout que je l'ai raconté direct à mes parents, à ma famille, et qu'ils ont rien dit, rien fait. Enfin, ils étaient choqués, mais ils ont rien fait, quoi. Genre, c'est bon, on passe à autre chose. Et moi, j'étais trauma parce que franchement, j'avais jamais vécu ça. Bon, après, c'était que le début d'une longue lignée de violences sexuelles, mais j'étais en mode, mais pourquoi? Et je m'étais retournée. Bon, je raconterai ça dans un autre épisode parce que ça... Ouais, je pense que je ferai un épisode sur ce sujet-là. Mais bon, pour vous raconter, je me suis retournée parce que j'étais surprise. Et le mec, quand je me suis retournée, il s'est retourné aussi et il a mis ses doigts dans sa bouche et il a mimé un cunnilingus, je crois. C'est ça, tu sais, quand tu mets ta langue comme ça entre tes doigts. C'était ignoble. Et puis après, on est parti. Voilà, sympa. Donc, maintenant, pourquoi j'ai porté plainte pour certaines violences et pas pour d'autres? Pour certains faits et pas pour d'autres. Parce que par exemple, quand j'avais 19 ans, je n'ai pas porté plainte. Eh bien, parce que ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. C'est-à-dire que la première fois que j'ai porté plainte, c'est parce que d'autres personnes sont intervenues. C'était en 2018, donc je raconte ça dans l'épisode 3 de Marie sans filtre, parce que c'est un peu un événement qui a construit mon activité actuelle, enfin ma vie actuelle. Ce podcast, c'est l'épisode 3, c'est « Il tente de me violer, je porte plainte ». Donc j'étais dans une bibliothèque à Paris, c'était en 2018, et quand un mec a essayé de me violer dans les toilettes d'une bibliothèque et que j'ai réussi à me défendre et à m'enfuir, les bibliothécaires m'avaient entendu crier et ont appelé la police. Donc c'est pas moi qui avais pris cette initiative, et quand la police est arrivée, la police m'a incité à porter plainte. Et j'étais déjà féministe à l'époque, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai porté plainte parce que les gens m'ont incité, mais de moi-même, je serais revenue à ma place dans la bibliothèque, j'aurais pris mes affaires, je serais partie. J'aurais été tout aussi traumatisée, mais je n'aurais pas réagi immédiatement. Et je pense que c'est très rare, quand on subit une violence sexuelle, de directement aller porter plainte. Enfin, je me dis, même si c'est des inconnus dans un lieu inconnu, puisque là, c'était vraiment un inconnu dans un lieu que je connaissais pas trop, ça m'aurait pas traversé l'esprit. Enfin, après, bon, si t'es laissée pour morte et que t'es violée à moitié morte sur la chaussée, blessée et tout, peut-être que c'est plus facile de dire que tu vas porter plainte. Mais dans la vie de tous les jours, quand on subit des violences, sur le coup, j'ai conscience que c'est des violences et j'ai conscience que c'est pas normal et ça me traumatise. Mais je mets pas les mots agression sexuelle ou harcèlement sexuel dessus. Je me dis juste, c'est un connard. Et je me dis pas, ah tiens, je vais aller porter plainte. Du coup, c'est pour ça qu'en tant que victime, on met des années à porter plainte, parce qu'il faut déjà se dire que ce qu'on a vécu, ça a un nom, une infraction pénale, et ensuite qu'on va aller raconter cette histoire à des inconnus pour qu'il y ait un procès. Enfin, je veux dire, c'est quand même un délire d'avoir cette idée-là. Donc ça, c'était 2018, c'est parce que des gens avaient été intervenus, je crois qu'on dit. Et ensuite, il y a eu 2021, où j'ai porté plainte 4 fois le même jour. Et ça, c'est parce que j'avais eu un déclic en regardant la série de la Britannique Michaela Cole, la série qui s'appelle « I May Destroy You », dont je parle tout le temps, que je vous invite vraiment à regarder. Bon, c'est très dur, ça traite des violences sexuelles, mais bon, si vous écoutez cet épisode, vous avez l'habitude. Et en regardant cette série qui est courte, je crois que c'est 6 épisodes ou 8 épisodes, en fait, j'ai réalisé que les violences que l'héroïne subit, moi aussi, j'en avais subi certaines qui étaient exactement les mêmes, et que c'était un viol pour l'une d'entre elles. Et voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'ai porté plainte en 2018 contre cette inconnue dans les toilettes et pourquoi j'ai pas porté plainte en 2015 quand mon copain était violent avec moi et que c'est clairement de la violence conjugale. Donc, je suis allée porter plainte 4 fois en 2021, le lendemain limite d'avoir regardé cette série, dans le même commissariat. À l'époque, j'habitais à Alençon, en Normandie, dans l'Orne. Donc là, ça a été un déclic, mais j'ai porté plainte pour des faits qui s'étaient passés, pareil, il y a plusieurs années, en fait. Donc, en tout, avec 2018, 2021, puis après, j'ai encore porté plainte en fin 2021 contre un autre mec, ça fait 6 plaintes. Pour violence sexuelle dans ma vie, j'ai jamais porté plainte pour d'autres choses, que ce soit des vols ou quoi, non, jamais. Donc j'ai porté 6 fois plainte, je crois que si, une fois j'ai porté plainte parce qu'on m'avait volé mon vélo, mais ouais, ça doit compter. Enfin bref, j'ai porté 6 fois plainte contre 6 hommes différents. Et pourquoi ces hommes-là aussi? Parce que je sais que précisément, déjà ce qu'ils ont fait c'était grave, c'est pas que j'estime qu'il y a des violences qui sont plus graves que d'autres, mais disons qu'un mec qui me fait une blague sexiste, ça peut être... je sais même pas si c'est interdit. Il y a outrage sexiste, je sais, dans la loi. Enfin, un mec, voilà, qui va me faire un outrage sexiste, donc il va me dire... De toute façon, t'es bonne qu'à laver le linge, rentre chez toi, t'es une femme, t'es faite pour t'occuper des enfants. Ça peut être un outrage sexiste, par exemple. Je vais pas porter plainte pour ça. Je dis pas que c'est moins grave... en général, je veux dire, ça peut être traumatisant, mais moi, j'ai porté plainte contre des faits qui m'apparaissaient toujours traumatisants des années après, qui avaient changé ma vie, et surtout, j'ai porté plainte contre 6 hommes qui, je sais, ont fait d'autres victimes, font actuellement d'autres victimes, et feront d'autres victimes, c'est-à-dire que je les connais, je connais leur fonctionnement, je connais leur sexisme. Soit je connais déjà d'autres victimes, soit je sais en moi-même qu'ils en feront d'autres. Ils sont dangereux. Donc au moment où je porte plainte, mes motivations, c'est de les empêcher de violenter d'autres personnes. En fait, je me dis, en France, on n'a pas 36 000 solutions quand on veut empêcher quelqu'un de violenter d'autres personnes. Je peux pas rester derrière eux toute la journée à vérifier ce qu'ils font. Donc on nous dit, en tant que femme, on nous dit, si t'as un mec qui t'agresse, va porter plainte. C'est ce que le gouvernement dit tout le temps. Et donc, y a un peu ce discours de tu vas laisser une trace, il va y avoir une trace, si une autre femme porte plainte après, voilà, il y aura une trace, etc. Et du coup, naïvement, j'ai pensé que porter plainte, ça allait les empêcher de violenter d'autres personnes. Et ça allait laisser une trace de mon passage et de leur violence auprès de la police et de la justice française. D'ailleurs, je relève que l'un des seuls bénéfices de mes dépôts de plainte à ce jour, c'est que j'ai trouvé d'autres victimes d'un des agresseurs après avoir porté plainte contre lui. Si j'avais pas porté plainte contre lui et si j'en avais pas parlé en ligne, parce que c'est pas le fait d'avoir porté plainte qui m'a fait trouver d'autres victimes, sur ce point-là je m'étais trompée, mais c'est le fait d'en parler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai porté plainte, je me sens légitime à en parler publiquement sur les réseaux sociaux, parce que effectivement, si du jour au lendemain je vais mettre en story Instagram, j'invente un nom, Jules Dupont m'a violé, là j'ai inventé un nom, ne vous enflammez pas. Si j'ai pas porté plainte contre Jules Dupont, je me dis le mec à tout moment peut me poursuivre en dénonciation calomnieuse ou en diffamation. Je ne suis pas juriste, je ne connais pas le droit, mais c'est ce qu'on répète toujours aux femmes victimes de violence, aux personnes victimes de violence, c'est oui, t'as été victime, mais n'affiche pas ton agresseur sur les réseaux sociaux parce que ça peut se retourner contre toi, il peut porter plainte, etc. Et on a eu l'exemple de femmes, par exemple Sandra Müller qui avait créé le hashtag balance ton porc, le mec qu'elle avait accusé d'agression sexuelle, je crois qu'il s'appelle Éric Brion, en gros il a porté plainte contre elle et ça a duré des années jusque finalement elle gagne le procès en mode non, elle avait le droit d'écrire ça, mais pendant des années elle a été condamnée, puis relaxée, puis condamnée, etc. Après, il y a eu Denis Baupin, un parlementaire qui a agressé sexuellement des femmes du groupe écologiste. Et bien, il y a plein de femmes qui ont porté plainte contre lui. Enfin, qui l'ont dénoncé. Et après, il a porté plainte contre elle. Pareil, je sais plus si c'est dénonciation calomnieuse ou diffamation, mais un truc du style. Et finalement, au bout de des années, elles ont aussi gagné. Mais en fait, on a toujours cette peur en tête de se dire, en fait, j'ai déjà souffert de cette violence, j'ai pas envie en plus que le mec me poursuive en justice. Enfin voilà, c'est terrible, ça engage des frais, c'est très éprouvant psychologiquement. Donc moi-même, quand je vais parler d'un mec qui me fait du mal en story Instagram, par exemple, je vais mettre que son prénom ou que son initial, ou je vais inventer un autre nom. Tant que j'ai pas porté plainte contre lui, même si c'est un connard, même si c'est un mec violent, j'ai pas envie que le mec commence à m'écrire pour me faire chier et tout. Et porte plainte contre moi. Alors que quand j'ai déposé plainte, je me sens légitime. Je sais que c'est pas forcément rationnel, puisqu'en fait, je pense que le gars, même si j'ai porté plainte, il peut tout aussi bien porter plainte pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Encore une fois, je sais plus c'est quoi la dénomination exacte. Il peut toujours le faire. Mais moi, je me sens légitime. Je me dis, bah, là, je vais afficher Yacine Al-Azaz sur mon Insta. Le mec, sur mon Twitter, là où je veux, le mec peut s'enflammer, dire qu'il va porter plainte contre moi. Mais en fait, moi, j'ai déposé plainte avant. Il se trouve qu'il y a d'autres victimes, qu'il y a d'autres plaintes. Enfin, je trouve que ce serait pas très malin de sa part de faire ça, quoi. Il y a une enquête, il y a des preuves, enfin, juste... fait profil bas. Et dans les faits, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, les mecs, je les ai affichés et je les affiche tout le temps. Et ils ont tous terrorisé par moi. Mais bref, là, ça, c'est même pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que l'un des seuls bénéfices de mes dépôts de plainte à ce jour, c'est que j'ai trouvé d'autres victimes, donc de ce mec Yacine Al-Azaz. C'est un mec qui m'a violée en 2017. Donc, quand je dis qu'il m'a violée, c'est qu'il a retiré son préservatif sans mon consentement pendant un rapport sexuel qui était, lui, consenti. Donc, c'est une pratique qui s'appelle le stealthing. Et donc j'avais découverte dans la série I May Destroy You, et c'est comme ça que j'ai porté plainte contre lui, parce que je ne pensais pas du tout que c'était un viol. Et c'est pas une question de se sentir violée ou pas, parce qu'il y a aussi ce truc où bah moi je me sens pas violée, mais en fait pour moi c'est même pas une question de ressenti personnel. J'ai pas à prouver que je suis traumatisée et que depuis que ce mec a fait ça je n'ai plus pu avoir aucun rapport sexuel. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas normal. Tu ne peux pas retirer ton préservatif sans le consentement de la personne en douce. C'est interdit. Ça devrait être interdit, en fait. Et en plus, grâce à cette plainte, quand j'ai affiché ce mec en story, il y a une autre victime qui m'a écrit, alors que je ne suis personne, que je n'ai quasiment... Enfin, à l'époque, j'avais quasiment personne qui voyait mes stories. Et il y a quand même une autre victime qui m'a contactée, qui m'a dit qu'elle aussi, elle avait enlevé son préservatif pendant un rapport qu'elle avait eu avec lui à une autre période, à un autre endroit, dans des circonstances complètement différentes. Il avait fait exactement la même chose, il l'avait pénétré sans son consentement. Et donc, elle aussi, elle a porté plainte. Donc, grâce, en fait, à cette plainte et au fait que j'ai affiché le mec en story, Instagram, eh bien, j'ai rencontré une autre victime. Et maintenant, on est ce qu'on peut appeler des sœurs de plainte, des co-victimes. Enfin, les mots sont pas top, mais c'est pour dire que c'est très fort, car... on se sent moins seul, on se sent plus forte en fait à deux, et puis surtout je me sens plus légitime, je me dis ah ok, c'est pas dans ma tête, le mec j'avais raison, il fait vraiment ça à d'autres meufs, je sais qu'il est violent mais là j'ai la preuve quoi, il a fait ça à une autre meuf que je n'avais jamais vue de ma vie, que je ne connaissais pas, et en plus il y en a eu d'autres depuis qui m'ont contactée, elles n'ont pas souhaité porter plainte, mais il a violé d'autres femmes dans d'autres circonstances, il a été en couple avec des femmes, il les battait, j'ai au moins 3-4 victimes en tête, autres quoi, qui n'ont pas porté plainte, donc ce mec est hyper dangereux, et c'est grâce à ma plainte que je le sais, en fait. Parce que je le savais déjà avant, mais là, j'en ai la preuve. Et donc, ça, c'est énorme. Et voilà. Et puis, la dernière fois que j'ai porté plainte, donc il y en a eu une fois en 2018, 4 fois en 2021, et fin 2021, enfin, on va dire août 2021, la 6e fois, la 6e plainte, le 6e mec, c'était en août 2021, Yanis Bayouri, dont je vous parle souvent. C'était un harceleur. En fait, j'étais sur mon Survivor Tour, sur mon Tour de France à pied contre les violences sexistes. J'étais en Bretagne, j'ai rencontré Yanis Bayouri, on est sortis ensemble. Après, il m'a traité comme de la merde, donc je l'ai largué. Et après, je suis retournée marcher sur le chemin de randonnée en Bretagne. Et le mec m'a suivi, c'est-à-dire il me harcelait de messages téléphoniques et en plus d'appels téléphoniques, et en plus il m'a suivi physiquement sur le chemin jusqu'à ce que je le rencontre, parce que voilà, il savait pas exactement où j'étais, donc il m'a suivi jusqu'à ce qu'il me trouve, jusqu'à ce qu'on se trouve, et j'ai dû porter plainte contre lui littéralement pour me débarrasser de lui, parce qu'en fait je voulais lui faire peur quoi. Du coup je suis allée porter plainte, j'ai demandé aux flics, aux policiers de l'appeler pour vérifier qu'il était bien dans le train, puisqu'il m'avait dit « c'est bon, je me casse, je vais à Paris », et pour lui faire peur, quoi. Bref, ça aussi, j'ai raconté cette expérience dans l'épisode 36 de Marie Sans Filtre qui s'appelle « Survivor Tour, je survis au harcèlement de mon ex ». Et ma plainte, ça a effectivement calmé Yanis Bayouri, quand même. J'ai pu poursuivre mon Survivor Tour sans lui. Ouais. Même s'il continue de me harceler sur les réseaux de temps en temps, sinon ça ne serait pas drôle, là. Alors, maintenant que j'ai raconté qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai porté plainte, maintenant je vais dire vite fait comment se sont déroulés les dépôts de plainte en eux-mêmes. Je n'aurai qu'un mot à dire, mal. À ce sujet, vous pouvez écouter l'épisode 29 qui s'appelle « Il me viole, je ne porte pas plainte » de mon podcast Marie sans filtre. Donc, dans cet épisode 29, je raconte précisément le dépôt de plainte, le dépôt des 4 plaintes en février 2021 au commissariat d'Alençon contre 4 hommes différents pour des violences subies entre 2015 et 2019. Donc en février 2021, je resitue les choses, je regarde la série « I May Destroy You », j'ai un déclic, je vais porter plainte contre 4 hommes différents au commissariat d'Alençon pour des faits qui se sont passés il y a plusieurs années. Donc il y a un mec, on va dire c'est Yanis Elazaz pour viol, donc retrait du préservatif sans mon consentement. Il y a un mec, c'est Paul Boulben, c'est violence conjugale, quand on sortait ensemble, il me balançait des objets sur la gueule. Il y a un mec, c'est Arnaud Blin, c'est un collègue de travail quand j'étais à l'agence France Presse qui m'a harcelé sexuellement jusqu'à ce que je perde mon travail. Et il y en a un, il s'appelle Yevgeny. J'ai pas son nom de famille, donc je ne pourrais pas vous dire. C'est un marin ukrainien qui m'a agressé sexuellement en me donnant des fessées sur un des cargos quand j'ai fait mon tour du globe en cargo. Donc, il est ukrainien, et vous le savez, en ce moment, c'est la guerre en Ukraine. Mais il travaille pour une entreprise française qui s'appelle la CMA-CGM, qui a les bateaux, les cargos sur lesquels j'ai embarqué pour faire le tour du globe en tant que passagère. Donc, il m'a agressé sexuellement. Et donc techniquement, c'est facile de trouver son identité, sachant qu'il travaille pour une entreprise française. Et d'ailleurs, depuis, j'ai su qu'ils avaient trouvé son identité, mais ils ne me l'ont pas transmise. Donc je ne pourrais pas vous dire son nom de famille, mais de toute façon, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes ukrainiennes qui écoutent mon podcast et qui le connaissent. Donc ça s'est mal passé, parce qu'en fait, je ne parle pas que de ce dépôt de plainte-là. Donc déjà, pour déposer plainte contre 4 personnes, dont un pour viol, ça m'a pris 2 jours. Parce qu'en fait, quand on dépose plainte pour viol, c'est filmé en fait la plainte, le dépôt de plainte. Donc ça prend du temps. Et les autres faits, voilà, il y avait beaucoup de détails. Ça s'était passé parfois sur plusieurs années, etc. Donc ça m'a pris 2 jours. J'y suis allée 2 jours et j'étais face à un flic qui n'était absolument pas formé aux violences sexistes et sexuelles, qui était un mec cis blanc hétéro de base, de 50 ans. Et c'était pareil. En 2018, j'étais aussi tombée sur un mec à Paris quand j'avais subi une tentative de viol dans les toilettes d'une bibliothèque. J'étais tombée pareil sur un mec qui n'était pas formé aux violences sexistes et sexuelles. Et en 2021, quand j'ai porté plainte contre Yanis Bayouri en Bretagne, je suis également tombée sur un mec cis blanc hétéro de 50 ans qui n'était pas formé aux violences sexistes et sexuelles. Donc, quand je vous dis qu'ils ne sont pas formés, c'est que je dois leur expliquer la définition de harcèlement sexuel, par exemple. Parce que plus d'une fois, ils ont refusé en fait de prendre ma plainte pour harcèlement sexuel. Alors qu'en fait, quand on porte plainte, c'est pas aux flics de décider pourquoi on porte plainte, c'est à nous. On peut arriver et dire « je porte plainte pour viol », la personne n'a pas à nous dire « ah non, ce n'est pas un viol en fait, c'est interdit ». Donc moi, je porte plainte pour viol, c'est l'enquête qui doit déterminer si c'est un viol ou pas, mais c'est pas... Enfin, c'est même pas l'enquête, c'est... Si, je crois que c'est l'enquête. Enfin bref, c'est pas le flic en soi qui prend le dépôt de plainte. Et donc, j'ai dû leur expliquer, par exemple, au travail, quand Arnaud Blin m'a harcelé sexuellement à l'AFP, j'ai dû expliquer au flic que le harcèlement sexuel au travail, c'est pas demander des faveurs sexuelles. La loi, elle a évolué maintenant. Poser des questions à connotation sexuelle à une collègue, c'est du harcèlement sexuel. Il n'y a pas forcément besoin que le mec te dise « j'ai envie de baiser avec toi », en fait. Ah, ça c'est compliqué parce que je dois en permanence en fait faire de la pédagogie parce que je dois pas non plus m'énerver. Voilà, faut pas que les gars soient vénères contre moi. Et après ils se permettent toutes sortes de remarques complètement déplacées. Celui d'Alençon, il m'avait fait des blagues. Il m'avait menacé de me mettre en garde à vue parce que je lui avais dit un truc qui lui avait pas plu et du coup il a voulu me faire peur. Et puis quand il a vu que j'avais peur, il m'a dit « Ah non, mais je rigolais !» Ah ouais, donc vous venez de me dire que vous alliez me mettre en garde à vue, mais c'était une blague. Ah, mais c'est super drôle en fait. Je suis en train de porter plainte pour viol et vous m'expliquez et vous me faites des blagues sur la garde à vue. Ben, c'est génial. Je passe vraiment ma meilleure journée là. Et quand j'avais porté plainte pour tentative de viol dans les toilettes de la bibliothèque à Paris, déjà, j'avais pas porté plainte pour tentative de viol puisqu'il ne voulait pas. Enfin, même moi, j'avais pas ça en tête, donc c'était violence volontaire. Et le mec, en fait, il y avait ses collègues autour dans le bureau qui faisaient des commentaires sur ma plainte, quoi. Il était pas tout seul, il y avait des gens autour qui commentaient ce que je disais, genre « Ah, mais vous lui avez bien parlé à votre agresseur, quand même, vous le connaissiez bien ?» J'étais en mode « Bah, non. » Je lui ai juste répondu quand il m'a demandé si j'avais un copain, mais ça voulait pas dire que j'avais envie qu'il me viole, enfin... Et puis il se faisait des câlins, il se faisait des blagues, enfin, c'était un délire. Voilà, voilà. Donc ça s'est mal passé au point où maintenant, quand je vais porter plainte, j'enregistre, quoi. J'ai un enregistreur sur moi et j'enregistre tout. Je sais que c'est illégal, mais en fait, si le flic me dit un truc hyper choquant, d'ailleurs, c'est toujours le cas, mais voilà, j'ai une trace, quoi. C'est chaud. Donc moi, j'ai mal vécu psychologiquement, en fait. C'est des moments pas du tout agréables. Alors maintenant, que s'est-il passé depuis les dépôts de plainte ? Eh bien, c'est le néant, on va dire. Non, je rigole. Enfin, en tout cas, la première fois que j'ai porté plainte en 2018, c'était en 2018, donc c'était il y a 5 ans. Et 5 ans après, j'ai jamais eu aucun procès, j'ai jamais eu aucune réparation, j'ai jamais eu aucune indemnisation. Les agresseurs n'ont jamais été arrêtés, n'ont jamais reconnu les faits, ne m'ont jamais présenté leurs excuses. Enfin, pour l'instant, ça n'a servi à rien. Et j'ai quand même porté plainte 6 fois pour des faits différents, donc j'ai quand même une bonne... Un bon exemple, en fait. J'ai testé différentes régions, villes. Voilà, je vois que ça se passe tout le temps. Enfin, ça se passe différemment selon les cas, mais ça se passe toujours mal dans tous les cas, en fait. Par exemple, en 2018, donc le gars essaie de me violer dans les toilettes de la bibliothèque à Paris. Et ensuite, j'ai aucune nouvelle de ma plainte pour violence volontaire. Et au bout de 6 mois peut-être, au bout de 6 mois, je me dis, c'est bizarre, normalement c'est court comme enquête de violence volontaire, j'aurais dû avoir des nouvelles. Donc je vais au tribunal de Paris, parce que je savais qu'il fallait que j'aille au tribunal pour ça, pour avoir des nouvelles. Je m'étais renseignée. Donc je vais au tribunal de Paris, et c'est là que j'apprends que ma plainte a été classée sans suite, et pour motif de recherche infructueuse, en gros ils n'ont pas retrouvé mon agresseur. Mais ce qui est un peu logique, puisque quand ils lui ont arrêté, le mec était sans papier, et sans domicile fixe. Donc en fait, il a donné une adresse d'un centre social, mais lui, il n'était pas... c'était impossible de le retrouver. Donc en fait, ils auraient dû l'interroger sur la tentative de viol quand ils l'ont arrêté, puisqu'en fait, ils l'ont arrêté. Hein. Ils l'ont arrêté dans la bibliothèque, mais ils l'ont gardé en rétention administrative. Enfin, ils l'ont gardé... Ils l'ont enfermé parce qu'il avait pas ses papiers, mais pas parce qu'il m'avait agressé, en fait. Et après, quand ils ont vu qu'ils ont fini sa rétention administrative, ils l'ont libéré, mais ils se sont pas dit, tiens, peut-être qu'on aura du mal à le retrouver, donc on va l'interroger maintenant au sujet de la tentative de viol. Non, non, ils se sont pas du tout dit ça. Du coup, bien sûr, quand l'enquête, ils ont voulu la faire et ils ont voulu convoquer le mec pour violence volontaire, et ben, il est jamais venu, puisqu'en fait, c'était même pas son adresse. Donc, ils ont classé sans suite. Voilà, c'est ce que la justice française fait. On parle quand même d'une justice qui a d'immenses moyens. Et moi, je vais au tribunal et normalement, ils sont censés envoyer un courrier pour dire que c'est classé sans suite et donc qu'il n'y aura pas de poursuite. Et en fait, ils ne m'ont jamais envoyé le courrier, donc j'ai dû l'apprendre toute seule en allant au tribunal. Depuis 2021 et les autres dépôts de plainte, j'ai eu très peu de nouvelles des enquêtes en cours. Certains policiers m'ont appelé pour me poser des questions et trouver d'autres victimes, par exemple pour l'affaire de Yacine Al-Azaz, le violeur. Mais c'est moi qui devais leur trouver d'autres victimes, c'est moi qui devais convaincre les autres victimes de porter plainte. Enfin, je veux dire, c'est pas mon travail. Et j'ai fait des expertises psychologiques pour alimenter le dossier. Et ça, c'est très traumatisant également, puisque la première fois que j'y suis allée, je me suis pas du tout méfiée. J'étais à Alençon, donc il fallait que j'aille voir un psy pour qu'il fasse un rapport pour l'enquête. Mais comme j'avais porté plainte contre 4 mecs pour 4 affaires différentes, bah, il m'a interrogée pour tout ça. Et en fait, c'était un psychanalyste, je crois. Et du coup, il s'est vachement intéressé à mon enfance. Et moi, en fait, j'adore voir des psys, j'adore raconter ma vie. Du coup, pendant 2 heures, je suis dans son bureau et je lui ai quasiment parlé que de mon enfance, que j'avais des rapports difficiles avec ma mère, que mon père était comme ci, comme ça, que mes frères et sœurs, ceci, cela. En fait, je lui ai raconté ma life. j'ai pas compris que c'était pas du tout ça que je devais dire. En fait, quand on est une victime de violence sexuelle, on est tout de suite suspecté d'avoir inventé, d'avoir exagéré, de vouloir se venger, etc. Et donc, il faut être la bonne victime. Donc, il faut dire, non, moi, j'ai eu une enfance parfaite, mes parents, ils sont parfaits. Non, c'est vraiment le viol qui m'a traumatisée, mais avant ça, j'étais vraiment une personne normale. C'est ça qu'il faut dire. Et donc, moi, je n'ai pas dit ça, j'ai dit la vérité, que ma mère, je m'entendais mal avec elle, etc. Et donc, le psy, il a rendu un rapport, mais éclaté, puisque je l'ai eu après, où avec son jargon de psychanalyste, il parle de trucs, on ne comprend rien. Et il conclut, en fait, que j'ai des problèmes avec ma mère et que c'est, limite, c'est pour ça que je suis traumatisée. Enfin, vraiment, mais n'importe quoi! N'importe quoi! Et il parle, ouais, vraiment, pas des violences. Donc, ça, c'était terrible. Et ensuite, quand j'ai appris, je reviens un peu auparavant, quand j'ai appris que ma plainte était classée sans suite en 2018 pour tentative de viol à la toilette de la bibliothèque, j'ai appris qu'il existait une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Ça s'appelle la CIVI, dans chaque département, dans chaque tribunal, et que je pouvais faire une demande d'indemnisation, même si l'affaire avait été classée sans suite, je pouvais dire, bah oui, mais moi j'ai eu des problèmes après ça, j'ai perdu de l'argent, je demande une indemnisation. Parce que classée sans suite, ça veut pas dire qu'il s'est rien passé, ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez d'éléments pour poursuivre la personne inculpée. Et donc, j'ai fait ma demande auprès de la CIVI à Versailles, et là j'ai revu un psy pour faire une autre expertise, parce que la CIVI avait besoin d'une expertise autre. Et en fait, là, j'avais déjà l'expérience de la première expertise. Du coup, j'ai dit, j'ai dit ce qu'il voulait entendre, quoi. J'ai pas du tout parlé de mon enfance. Quand il me demandait comment ça s'était avec mes parents, j'étais en mode, ah, c'était très bien, ça s'est très bien passé, j'ai des parents parfaits, etc. Et après, j'ai bien insisté sur, j'ai une vestibulodynie depuis que j'ai subi des violences, je suis traumatisée, j'ai perdu mon travail, nanana. Mais bon. Après avoir vu le psy, il a rendu son rapport à la CIVI et la CIVI a mis le rapport dans un tiroir. Ça n'a rien passé. Alors qu'à ce moment-là, ils auraient dû décider si ma demande d'indemnisation était valide. Je crois que j'avais demandé 10 000 euros ou un truc comme ça. Et la CIVI aurait dû me dire, bah oui, on vous donne 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros ou 0 euros, quoi. Et jamais aucune nouvelle. Ça, c'était il y a un an. Du coup, l'autre jour, je les appelle et je dis, ouais, du coup, il s'est passé quoi? Et ils me disent, ah non, mais c'était à vous de nous relancer. J'étais en mode, bah non, c'est pas ça que vous m'aviez dit. Du coup, ils me disent, ah oui, d'accord, bon, bah on va faire une nouvelle audience. Vous devez venir le 15 mars 2023, il va y avoir une nouvelle audience et puis vous redemanderez votre indemnité. J'étais en mode, ok, donc en gros, je dois vous relancer en permanence. Vous avez juste oublié mon existence. Maintenant, je dois revenir à une audience alors que j'en ai déjà fait plusieurs. Tout ça pour peut-être obtenir 0 euros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Après l'argent... c'est un enjeu hyper important dans un dépôt de plainte et on peut perdre beaucoup d'argent à faire ce genre de procédure, mais on peut aussi en gagner. Vraiment, il y a des victimes qui, pas qui deviennent riches, mais on peut quand même gagner de l'argent ou du moins avoir des réparations, puisque moi j'ai beaucoup plus perdu d'argent que je n'en gagnerai jamais depuis que j'ai subi des violences. Mais voilà. Moi, si je peux récupérer 10 000 euros, je vais récupérer 10 000 euros, j'en ai rien à foutre. Hein. Je n'aurai aucun scrupule. Et le pompon de ce qui s'est passé depuis mes dépôts de plainte, c'est une confrontation. Je sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà vécu, mais c'est vraiment l'invention de la police justice française la plus ignoble qui existe sur Terre. C'est-à-dire que vraiment, quand t'as été victime de violences sexuelles, te mettre face à ton agresseur toute seule dans une pièce avec un flic soi-disant impartial pour confronter vos versions et voir qui ment, c'est vraiment mais la pire idée au monde en fait. Pourquoi vous faites ça? Si c'est pour retraumatiser la victime, c'est très efficace. Mais c'est tout quoi. Donc un jour il y a un an, février 2022, un policier m'appelle et me dit je vais convoquer Arnaud Blin, l'homme qui vous a harcelé sexuellement au travail à l'agence France Presse en 2018. Il va faire l'audition demain tel jour. Est-ce que je me disais après l'audition, on peut faire une confrontation. Est-ce que vous voulez venir à la confrontation? Donc j'aurais pu dire non, mais c'est mal vu de dire non, en fait. Donc j'ai dit oui. Et je me suis renseignée pour prendre une avocate avec moi. J'aurais dû payer genre 300 euros pour qu'une avocate vienne avec moi. Mais franchement, j'avais la flemme. Donc j'y suis allée toute seule et c'était atroce. Au sujet du collègue qui me harcèle à l'AFP, vous pouvez écouter l'épisode 15 de Marie sans filtre qui s'appelle « Mon collègue me harcèle, je me défends ». Et au sujet de la confrontation, je vais raconter brièvement maintenant. Ça s'est bien et mal passé à la fois puisque le policier n'était pas impartial, il était clairement de mon côté et il posait des questions pour entrer dedans, enfin voilà, il m'était mal à l'aise Arnaud Blin, mais Arnaud Blin campé sur ses positions, elle invente tout, elle est folle, enfin pas elle est folle, mais ouais elle invente tout, elle veut se faire remarquer. Il a dit des trucs énormes, par exemple il a dit que quand j'étais à l'AFP en CDD j'étais nulle. Que tout le monde disait que j'étais nulle, que c'était pour ça qu'il m'avait pas reproposé de CDD après. J'étais en mode, ah ouais, vraiment, le mec, lui, il est au placard, lui, c'est vraiment un très mauvais journaliste. Il vient me dire que c'est moi qui étais nulle, alors que l'agence France Presse m'a proposé 10 CDD d'affilée. J'étais en mode, mec, si j'étais si nulle que ça, il m'aurait pas reproposé de CDD alors qu'il y avait 80 personnes qui se bousculaient derrière pour avoir un contrat. Enfin, n'importe quoi. Et puis j'ai appris du coup à cette confrontation que le mec est toujours en CDI à l'agence France Presse bien sûr, que maintenant il est même chef de son service, du moins responsable. Et il avait même son badge AFP qui dépassait de façon apparente de sa poche de pantalon, de façon très élégante. Donc le mec il était en mode bon là faut que j'aille au travail. Enfin là il était de passage à la police, mais après il allait au travail quoi. C'était incroyable. Et en fait il était pas bien. Ça se voyait qu'il avait peur, qu'il était pas bien, il était super silencieux, il m'a pas regardé une seule fois, il regardait par terre, alors que quand j'étais à l'AFP, il regardait que mes seins et mes fesses tout le temps. Et là, il m'a pas regardé une seule fois, il m'appelait madame. Quand il devait parler de moi, il disait madame ceci, madame cela, j'étais en mode, mais on a travaillé ensemble, je m'appelle Marie, tu t'appelles Arnaud, enfin, pour qui tu te prends, c'est un truc de fou. Enfin, il faisait comme s'il me connaissait pas, quoi. Et moi, en fait, j'étais super fière à côté, je me tenais hyper droite, je le regardais, et en plus, j'étais choquée par ce qu'il disait, parce qu'il inventait des énormités. Et en fait, moi, je mens jamais dans la vie. Et du coup, quand je vois des gens mentir en live, je suis toujours choquée. Je me dis, mais c'est pas possible, vous. Enfin, en plus, je pense qu'il croit vraiment ce qu'il dit. C'est-à-dire que les gens qui mentent, souvent, sont persuadés qu'ils disent la vérité. Alors, peut-être moi, je mens aussi, peut-être. Alors, je sais pas. Et du coup, j'arrêtais pas de faire des onomatopées. Je soufflais, on avait nos masques, et je soufflais quand il disait une énormité. Et ça le saoulait trop, parce que je suis censée rester silencieuse, mais j'arrivais pas, quoi. Je riais des fois. Enfin, c'était nerveux, mais franchement, c'était atroce. C'était atroce. Des fois, le policier, il allait imprimer un truc dans la salle d'à côté. Et heureusement, il demandait à quelqu'un de venir pour nous surveiller. Mais je pouvais pas rester dans la salle avec lui toute seule, avec Arnaud Blin. Je me sentais tellement mal. Je me sentais en danger, quoi. Enfin, ça a réactivé tout mon trauma. Et heureusement, j'avais demandé à ma meilleure amie de venir. Du coup, elle m'attendait en bas. Et quand je suis sortie, on allait au resto et elle était là et tout. J'ai pu décompresser avec elle. Mais c'était terrible. La prochaine fois, je prends une avocate avec moi. Je m'en fous. Enfin, la confrontation, c'est terrible, même si sur le coup, j'avais l'impression de le dominer. En fait, non, enfin, c'était juste... dans ma tête, c'était terrible. Et puis, depuis la confrontation, donc en février 2022, j'ai pas eu de nouvelles. Enfin, si, le policier m'a juste appelé pour me dire qu'il avait rendu son rapport au parquet et que la procureure avait décidé de poursuivre. Mais après, je lui ai écrit pour lui demander ça veut dire quoi, poursuivre, et il m'a jamais répondu, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. Et après, j'en ai parlé à des juristes ou des avocates qui m'ont dit que ça voulait dire qu'il allait peut-être avoir, soit il allait avoir un rapport à rappel à la loi, soit un procès. Mais comme j'ai pas eu de nouvelles depuis, parce que du coup j'avais super peur, je me suis dit, bah ça se trouve il va y avoir un procès, et moi je veux pas du tout aller à un procès. Et je me dis que peut-être il a eu un rappel à la loi. Et en fait, ce qui est, je trouve, scandaleux et maltraitant en fait dans la façon dont on traite les victimes en France, c'est que la police et la justice ne nous tiennent jamais au courant des procédures. C'est-à-dire que bien sûr, enfin, j'imagine que s'il y avait un procès, je serais prévenue. Mais en fait, il faut se déclarer partie civile pour avoir accès au dossier. Et puis, pour avoir des infos, il faut appeler. Mais sinon, on n'a aucune info, quoi. Et moi, j'ai pas spécialement envie d'appeler tous les gendarmeries de France. Parce qu'en plus, le problème, c'est que l'endroit où j'ai porté plainte, c'est pas l'endroit où l'enquête va être faite. Donc, à chaque fois, il faut que j'appelle à la gendarmerie de là où j'ai porté plainte pour savoir où est-ce qu'ils ont envoyé l'enquête. Parce que souvent, c'est envoyé là où le mec réside, mais je sais pas forcément où mes agresseurs résident aujourd'hui. Du coup, après, il me renvoie vers telle ville, que je rappelle, qu'il me renvoie vers telle ville, etc. Et là, je peux savoir, du coup, mon enquête, elle a donné quoi? J'ai fait ça l'autre jour et ils m'ont dit, on n'a pas commencé l'enquête. Donc là, je parle de Yanis Bayouri, le mec avec qui je suis sortie en août 2021 et qui m'a harcelé quand je l'ai quitté sur le chemin de randonnée. Donc lui, j'ai porté plainte en Bretagne. J'ai appris l'autre jour, parce que ça fait quand même un an et demi, j'ai appelé le commissariat de là où j'ai porté plainte, qui m'a dit qu'ils avaient renvoyé l'affaire à telle gendarmerie, là où Yanis Bayouri habite. Et quand j'ai appelé cette gendarmerie, mais c'est pas cette gendarmerie, c'est la police. Je sais plus comment on dit, la police. Quand j'ai appelé la police de là où il habite, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas commencé l'enquête. Donc on parle d'un truc qui s'est passé il y a un an et demi. Et je sais que harcèlement, c'est pas votre priorité. Mais en fait, le problème, c'est que si vous aviez fait l'enquête directe, limite, vous prenez le mec, enfin, j'ai porté plainte le jour où ça s'est passé. Donc limite, vous prenez le mec sur le fait, vous l'interrogez le jour même, vous m'interrogez, etc. On a plein d'éléments. J'avais des preuves sur moi, etc., de tous les appels qu'il m'avait passés, des messages et tout. Et bien, là, vous pouvez torcher l'enquête en une semaine, même pas en trois jours. Ensuite, vous auditionnez le mec, etc., vous prenez votre sanction et c'est terminé. Mais un an et demi après, surtout que là, ils ont toujours pas commencé, donc ça se trouve, ils vont commencer dans un an ou deux ou jamais. Ben, en fait, il y aura plus rien. Enfin, même moi, je me rappelle plus exactement de ce qui s'est passé. Le mec, il peut dire qu'il se rappelle de rien non plus. Enfin, en fait, les éléments matériels, ils disparaissent peu à peu. Enfin, tout ça, c'est en fait que des façons de maltraiter les victimes et de s'assurer de l'impunité des agresseurs. Tout ça, c'est fait exprès. Hein. On dit oui, mais c'est la police et la justice, ils n'ont pas de moyens. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas de moyens, c'est qu'ils ne veulent pas donner de moyens à la lutte contre les violences sexuelles. C'est fait exprès. Tout ça, c'est pour protéger l'impunité des agresseurs. C'est fait exprès. Par contre, si tu commets un meurtre, là, tu peux être sûr que dans la minute, t'as 14 policiers à ta porte. Mais un viol, non, on va laisser passer 3-4 ans pour faire l'enquête. Bah oui, bien sûr. Concernant la plainte pour viol contre Yacine El-Azaz, en fait, là, je vous cite énormément de dates, de lieux, de noms. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est le fond de ce que je raconte. Donc, si vous mélangez tout, c'est pas grave. Mais concernant la plainte pour viol contre Yacine El-Azaz, donc j'avais trouvé une autre victime qui avait également porté plainte. Et nos enquêtes, enfin l'enquête, ils ont fait qu'une seule enquête à partir de deux plaintes. Donc au moins ça a été bien fait. Et on a reçu un avis de classement sans suite en février 2022, donc il y a un an également, avec des arguments fallacieux. Puisqu'en fait, l'avis de classement victime, là c'était pas pour recherche infructueuse, c'était... Alors que ça aurait dû être ça, parce que le mec a déménagé au Maroc. Non, c'était qu'ils avaient interrogé le gars et qu'il niait les faits. Et donc, il classait son suite parce qu'il avait nié les faits. Donc, c'était infraction insuffisamment caractérisée. En plus, on parle d'un viol, mais comme la pratique du stealthing, retrait du préservatif sans consentement, n'est pas encore reconnue comme un viol en France, ça a dû aussi jouer dans leur motif de classement. Mais le problème, c'est qu'ils ont dit qu'ils avaient interrogé Yacine Al-Azaz et qu'il avait nié les faits. Donc là, j'étais surprise parce que je me suis dit, c'est bizarre, le mec est au Maroc, comment ça se fait qu'ils aient réussi à l'interroger? Et en fait, j'ai demandé dans la foulée une copie de dossier pénal, puisqu'on peut faire ça quand c'est classé. Et donc, j'ai reçu quelques mois après le dossier de l'enquête de police et j'ai relevé tellement de contradictions à l'intérieur, puisqu'en fait, ils n'ont pas interrogé Yacine Al-Azaz. Donc, le classement à victime est juste faux. Il n'a pas été interrogé puisqu'il était au Maroc et que quand la police a essayé de le chercher, il était au Maroc. Donc voilà, ils ont essayé d'appeler son opérateur, sa banque et voilà, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de signal. Donc ils ont découvert qu'il n'était plus en France. Et donc pourquoi nous dire à nous les victimes qu'il a été interrogé et qu'il nie les faits alors que c'est faux et que la procureure, quand elle écrit ça, elle le sait. Donc soit c'est une erreur, soit c'est fait exprès, mais auquel cas c'est très grave. Et par contre, ils ont interrogé d'autres victimes, donc des ex, une ex par exemple de Yacine, qui dit qu'il l'a frappé, qu'il lui donnait des coups de pied et d'autres choses atroces. Et donc voilà, il y a eu d'autres éléments dans l'enquête qui disent que ce mec est violent, mais ça, c'est pas suffisant à leurs yeux pour poursuivre. Donc, quand je reçois cette copie de dossier pénal, je me dis c'est tellement contradictoire, je vais porter plainte avec constitution de partie civile, donc c'est une nouvelle plainte, mais cette fois. Quand on porte plainte avec constitution de partie civile, ça va directement entraîner la nomination d'un ou d'une juge d'instruction et relancer une nouvelle enquête. Vous voyez, vu tous les mots que j'emploie, je suis devenue tellement experte en droit maintenant. Mais comme je vous l'ai dit, Yacine Al-Azaz a déménagé au Maroc, dernière nouvelle, donc c'est difficile de prévoir la suite puisque le Maroc ne va pas renvoyer Yacine en France pour qu'il soit interrogé par le juge d'instruction. Donc je pense qu'il va rien se passer, mais moi j'ai fait mon taf. Parallèlement à tous ces événements, j'ai demandé l'aide juridictionnelle. Donc l'aide juridictionnelle, ça permet d'avoir un avocat directement rémunéré par l'État. On n'a pas besoin d'avancer les frais. Bon, l'avocat est très mal payé par l'État, mais il y a des avocates qui acceptent l'aide juridictionnelle. Donc j'ai trouvé sur les réseaux sociaux une avocate féministe qui a accepté l'aide juridictionnelle. Ensuite, j'ai dû faire une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de mon département. Ils m'ont demandé des tas de papiers, ils m'ont envoyé des tas de courriers, ça a pris des mois, parce qu'en fait, avec la justice aussi française, tout se passe par courrier. La police, ils t'appellent du jour au lendemain et t'as pas leur numéro, mais la justice, c'est des courriers. C'est très pratique, étant donné que je change d'adresse tous les 6 mois, et qu'ils ne savent pas que j'ai changé d'adresse, puisque je n'ai pas leur contact. Mais bref, du coup, l'aide juridictionnelle, j'ai dû donner 10 000 papiers, 10 000 justificatifs. Finalement, ils m'ont dit non, finalement, ils m'ont dit oui. Et j'ai obtenu l'aide juridictionnelle totale pour une seule des affaires, car oui, il faut demander l'aide juridictionnelle une fois par affaire. Je ne pourrais pas avoir une avocate pour toutes les affaires. Donc, enfin, je veux dire, je ne peux pas avoir une aide juridictionnelle pour toutes les affaires. Donc là, j'ai demandé pour la plus grave viol de Yacine Al-Azaz. Et donc, j'ai une avocate féministe que j'ai pu choisir et qui a accepté de m'accompagner. Mais comme j'ai porté plainte avec constitution de partie civile, et que depuis, il n'y a pas vraiment de nouvelles, l'avocate, pour l'instant, elle ne fait rien, quoi. Donc, si je veux avoir une avocate pour les autres affaires, il faut que je redemande l'aide juridictionnelle. Et bien sûr, l'aide juridictionnelle, ça dépend des revenus, hein. Moi, c'est parce que je suis au RSA que je l'ai eue. Il y a l'aide juridictionnelle totale que j'ai eue, et il y a l'aide juridictionnelle partielle, si vous êtes un peu moins pauvre. Bref, c'est une galère sans fin. Franchement, avoir affaire à la police et à la justice française, c'est l'épreuve la plus difficile que j'ai jamais affrontée au niveau administratif. Faut savoir que moi, j'ai pas du tout de phobie administrative. Au contraire, j'adore ça, envoyer des courriers. Enfin, c'est pas que j'adore ça, mais comme je suis très organisée et que je tiens ça de ma mère et que je réponds à tous les courriers en temps et en heure, ça me dérange pas. Voilà, faire une déclaration d'impôt, ça me dérange pas. Non, je vois vraiment les avantages du truc. Donc, quand j'ai commencé à recevoir des courriers de la justice, moi, je me suis pas méfiée, j'ai juste commencé à répondre. Mais du coup, au début, je répondais toujours en courrier par courrier recommandé avec accusé de réception. Mais en fait, ça coûtait un bras ou deux. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et ça prend un temps infini, toutes ces démarches, et ça aboutit jamais, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'ai toujours rien obtenu de concret de la justice française. Aucun résultat tangible en 5 ans de temps, sauf donc l'aide juridictionnelle, mais voilà, c'est pour l'instant, ça me sert à rien. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai changé d'adresse, et comme j'ai pas de coordonnées des personnes en charge de l'enquête police ou justice, je peux pas les prévenir que j'ai changé d'adresse. Et puis, en fait, c'est pour dire la vérité, moi, mes plaintes, une fois que j'ai déposé plainte, je me dis, bah, c'est bon, c'est plus entre mes mains, hein, maintenant, vous vous débrouillez sans moi. Sauf qu'en fait, je me rends compte que si je fais rien, il se passe rien. Donc là, il faudrait, ça fait plusieurs années que j'ai porté plainte, il faudrait que j'appelle tous les commissariats pour savoir ce que c'est devenu, parce que à Paris et Sinalazaze, le classement sans suite, j'ai aucune nouvelle des autres plaintes, il y en a quand même 4. Et donc, l'autre jour, j'étais au CIDFF de la Manche, à Cherbourg. Donc, le CIDFF, c'est le Centre d'information des droits des femmes et des familles. C'est dans chaque département, vous pouvez aller les voir. C'est une association qui vous aide avec des psys, des juristes. Il y a plein d'informations, en fait, si vous avez subi des violences. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec une juriste du CIDFF de la Manche et j'y suis allée. Et mon plan, c'était de lui parler du fait que j'avais aucune nouvelle de mes plaintes et qu'elle m'aide à avoir des nouvelles. Et en fait, la meuf n'avait aucune empathie, elle était super froide. Et direct, quand je suis arrivée et que je lui ai raconté, elle était en mode non, mais ça a été classé sans suite. Hein. Je lui ai dit, non, enfin, j'en sais rien si ça a été classé sans suite. Elle a dit, non, mais si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que ça a été classé sans suite. Hein. Et puis, harcèlement, ils s'en foutent. Hein. Ils font même pas d'enquête, hein. C'est une plainte sèche, vous n'aurez jamais de nouvelles. Enfin voilà, elle était super négative, elle disait que des trucs comme ça alors qu'elle n'avait aucune preuve de ce qu'elle disait. Et puis au bout d'un moment, sans me demander mon consentement, elle a commencé à appeler les commissariats de là où j'avais porté plainte. Donc ça voulait dire que potentiellement, devant moi, là, dans les 5 minutes, j'allais savoir ce qui était devenu ma plainte. Alors qu'elle venait de me dire que c'était sûr, ça avait été classé sans suite, du coup, j'étais pas prête psychologiquement à recevoir cette nouvelle de la police. Enfin, je veux dire, elle a appelé successivement 5 commissariats pour avoir des nouvelles, sachant qu'en plus, ça servait à rien de le faire devant moi, parce qu'on n'avait qu'une heure de temps comme rendez-vous, voire moins. Et le temps que le commissariat te décroche, ça prend des fois 10 minutes. Enfin voilà, t'es en attente. Enfin, ça n'avait aucun sens ce qu'elle faisait. Et surtout, je lui ai dit, mais en fait, si pour avoir des nouvelles de la plainte, il suffit d'appeler le commissariat, je peux le faire. Enfin, j'ai pas envie de le faire, parce que comme je vous l'ai dit, moi, une fois que c'est derrière moi, j'ai envie de passer à autre chose. Mais au bout d'un moment, voilà, j'ai quand même envie d'avoir des nouvelles, donc je peux le faire. Mais voilà, elle s'obstinait à le faire devant moi. Et puis, au bout d'une heure, naturellement, elle a eu aucune nouvelle, puisque il l'a renvoyée de commissariat en commissariat, étant donné que j'avais porté plainte dans des endroits où la personne n'habitait pas. Donc après, l'enquête, comme je vous l'ai dit, était renvoyée dans un autre département. Et puis, ça n'a jamais été classé sans suite. Voilà, ce qu'elle m'avait raconté au début était faux, en fait. Et donc, à la fin de l'entretien, elle me dit, bon, j'ai pas réussi à avoir tout le monde, mais on a qu'à se partager. Moi, je vais rappeler tel commissariat demain. Et puis vous appelez tel commissariat. Et elle me dit qu'elle me rappelle dans quelques jours pour me donner les nouvelles. Ça, c'était au mois de décembre. On est en février. Je n'ai jamais eu aucune nouvelle d'elle. Donc, elle ne l'a pas fait. Et en plus, elle était hyper froide, hyper moqueuse. Enfin, c'était horrible. La meuf, elle travaille au CIDFF, quoi. Elle reçoit des victimes de violence toute la journée. Je l'ai dit après à sa directrice, mais... Non, je ne l'ai pas dit à sa directrice. Je l'ai dit à sa collègue psy. Qui est maintenant en arrêt maladie. Mm-hmm. Et donc, elle ne m'a jamais rappelée. Et moi, de mon côté, j'ai fait mon devoir. J'ai appelé les commissariats que j'étais censée appeler. Mais c'est tout, quoi. C'est comme ça que j'ai appris que Yanis Bayouri, à Champigny-sur-Marne, ça n'avait toujours pas commencé l'enquête. Et que la CIVI m'avait oublié dans un tiroir le rapport du psychiatre. Et grâce à mon appel, j'ai une audience en mars. Je suis absolument ravie d'y retourner à Versailles, à la CIVI de Versailles, pour savoir si j'ai une indemnisation ou pas suite à la tentative de viol dans les toilettes de la bibliothèque. Mais le cargo Yevgeny, j'ai pas de nouvelles, c'était la juriste qui devait le faire. Paul Boulben, le mec violent avec qui je suis sortie en 2015, j'ai pas de nouvelles, c'était la juriste qui devait le faire. Aux dernières nouvelles, il serait à Tours. Arnaud Blin, donc le harcèlement sexuel au travail, j'ai pas de nouvelles. Le procureur a dit qu'il allait poursuivre, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Bref, j'attendais peu de la police et de la justice française, mais je suis quand même déçue. Je suis pas sûre que même laisser ma trace dans leur fichier, ça soit vraiment bien, en fait, utile. De toute façon, la plupart des victimes ne portent jamais plainte. Et puis, même mes dépôts de plainte, ça n'empêche pas les agresseurs d'agresser à nouveau. Enfin, ils en ont rien à foutre. Enfin, ils n'en ont pas rien à foutre, mais ça les empêche pas d'agresser. Moi, j'ai réfléchi depuis mes dépôts de plainte, j'aurais peut-être dû réfléchir avant, vous allez dire. Et moi, je sais aujourd'hui ce que j'attends de mes agresseurs. Déjà, je trouve ça bizarre de dire mes agresseurs comme s'ils m'appartenaient, comme si j'étais contente. Ce que j'attends d'eux, numéro un, qu'ils reconnaissent les violences qu'ils m'ont fait subir. Donc pas qu'ils disent « Ah ouais, non, j'avoue, ce jour-là, j'ai pas été sympa », mais qu'ils disent « Ok, je t'ai agressée sexuellement ». Enfin, si c'est une agression sexuelle. Numéro 2, qu'ils me présentent leurs excuses. Je te présente mes excuses. Numéro 3, qu'ils s'engagent à changer de comportement. Je vais aller voir un groupe de parole. Je vais aller dans une association qui s'occupe des hommes violents. Je vais faire une psychanalyse, je sais pas. Je vais lire des trucs féministes. Et numéro 4, qu'ils le fassent vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des effets concrets que je vois 5 ans après à « t'as fait aucune nouvelle victime ». T'as fait un vrai chemin. Enfin, c'est difficile à mesurer puisque moi je vais pas revenir dans leur vie, mais ce serait l'idéal. Bref, je souhaite qu'ils ne soient plus violents, mais je ne souhaite pas du tout qu'ils soient placés en garde à vue, qu'ils soient auditionnés, qu'ils soient jugés, qu'ils soient sanctionnés, qu'ils soient mis en prison. Moi, j'ai des convictions profondément anticarcérales. Mais alors, me direz-vous, pourquoi, Marie, tu as porté plainte dans ce cas-là, puisque j'attends de la police et de la justice française, visiblement, une justice réparatrice et transformative, c'est comme ça que ça s'appelle, ce que je viens de citer. J'attends de la police et de la justice française une justice réparatrice et transformative qu'elle ne propose pas, qu'elle ne propose jamais, puisque la justice française, la police française, se centre sur la justice répressive, le fait de mettre les gens en prison. Et cette justice répressive, on sait qu'elle est totalement inefficace pour arrêter les violeurs. Eh bien, je vous répondrai que moi, j'ai porté plainte parce que je ne connaissais aucune alternative satisfaisante en France et j'en connais toujours aucune. Concrètement, comment on fait quand on subit des violences, qu'on veut les arrêter et surtout qu'on veut empêcher l'agresseur de faire d'autres victimes ? Parce que certes, je peux me défendre, pratiquer l'autodéfense féministe, je peux fuir, fuir c'est une technique d'autodéfense en soi d'ailleurs, mais je n'empêcherai pas ce mec, cet agresseur, de faire d'autres victimes. Alors, dans mes recherches, j'ai appris qu'il existe des sites internet pour partager les noms des agresseurs de façon confidentielle afin de rencontrer d'autres victimes de la même personne. Et moi, j'ai ajouté le nom de ces agresseurs, de mes agresseurs dessus. Mais j'ai jamais eu de retour. Ça fait des années que j'ai rempli ces sites internet et j'ai jamais trouvé d'autres victimes par ce biais. De toute façon, j'ai l'impression que ces sites ne sont pas du tout connus, voire qu'ils sont même pas légaux. Est-ce que vous connaissez ? Il y a par exemple en France coabuse.fr, c'est plutôt, j'ai l'impression, pour les victimes de pédocriminalité dans l'église, mais moi j'ai mis le nom des agresseurs dedans. En gros, vous mettez le nom de l'agresseur dans cette base de données, c'est confidentiel, donc le nom des agresseurs ne sont pas publics sur le site, mais s'il y a une autre victime qui met aussi le nom de cet agresseur sur ce site, on peut rentrer en contact avec la victime, c'est ça le but. Et moi je trouve ça vraiment très bien d'avoir d'autres victimes autour de soi, comme je disais tout à l'heure. Et au Canada, j'ai découvert hier soir qu'il y avait disonnom.ca. Et c'est énorme, disonnom.ca, elles mettent le nom des agresseurs visiblement sur le site. Ça c'est bien parce que du coup, si t'as un doute sur un mec, tu vas sur ce site, tu vérifies s'il est dans l'embas de données, il y a écrit vite fait ce qu'il a fait, s'il y a une plainte en cours, combien il y a de victimes, et voilà. Mais c'est des agresseurs présumés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de jugement, c'est juste des victimes qui ont renseigné leur nom. Et donc, disonnom.ca est poursuivi en justice régulièrement par des mecs qui sont sur ce site et qui sont pas contents, c'est énorme. Ça, en France, ça pourrait pas exister, il y aurait un scandale direct. Voilà, est-ce que vous connaissez ces sites ? Est-ce que vous connaissez d'autres façons d'empêcher les agresseurs d'agresser ? Bien sûr, on peut les tuer, mais voilà, c'est pas une option que je considère sérieusement. En fait, moi, je trouve ça génial de se dire bah, on va éduquer les générations suivantes pour que ce ne soient pas des agresseurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui tout de suite. En fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui tout de suite pour que ce violeur, on va dire Yacine El-Azaz, qui est au Maroc et qui, je sais, maintenant fait des victimes au Maroc, voilà, je le sais, comment on fait pour qu'il n'en fasse pas? C'est ça, concrètement, qu'est-ce que je fais? Parce que porter plainte, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est... Pour moi, c'est, je supporte pas ce sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que j'ai les ressources, enfin, je pense avoir les ressources pour pouvoir me battre contre ces gars. Et je sais pas quoi faire. En fait, ces hommes qui m'ont agressé, ils ont jamais reconnu les violences, ils ne m'ont jamais présenté d'excuses, ils n'ont jamais changé de comportement. Aux dernières nouvelles, ces 6 mecs, par exemple, ils ont disparu. Où ils m'ont bloqué sur tous les réseaux sociaux. Par exemple, Paul Boulben, un mec violent avec qui je suis sortie en 2014, 2015, 2016 et qui a été violent avec moi en 2015. Physiquement, violence conjugale. Ce mec, depuis que j'ai porté plainte contre lui en 2021, alors qu'avant, on était en bon terme, étant donné que c'était mon ex et que j'avais pas encore mis le mot violence sur ce qu'il m'avait fait subir, ce mec, il me parlait sur les réseaux tout le temps. J'étais même partie en vacances chez lui, on se voyait, on buvait des verres, et il m'appelait ma chérie, même plusieurs années après qu'on soit plus ensemble. Il m'adorait. Et genre, du jour au lendemain, quand j'ai commencé à le dénoncer sur les réseaux sociaux, il m'a bloqué sur tous les réseaux, il m'a bloqué sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Enfin, et voilà. C'est ça leur réaction. Et il y en a d'autres qui se présentent comme des victimes. Par exemple, Yacine El Azaz. L'autre jour, j'ai mis son nom sur Twitter pour parler de ce qu'il m'avait fait. Et il a fait plusieurs threads sur Twitter, plusieurs fils Twitter pour raconter que j'avais tout inventé, que j'étais toute seule. Enfin voilà, il a pas du tout dit qu'il y avait d'autres victimes et d'autres personnes qui avaient porté plainte, évidemment. Et voilà, il a même dit que c'était pour attirer la lumière, que c'était parce que je sortais mon livre La Puissance, que je voulais attirer l'attention en le dénonçant lui. Comme si la renommée de Yacine El Azaz, qui est absolument personne sur Twitter, allait me faire vendre des livres. Voilà, exactement. En fait, si vous voulez devenir riche ou célèbre, dénoncez des agresseurs. C'est vraiment un truc qui changera votre vie dans le bon sens. Donc lui, il se présente comme une victime. Donc on peut dire que le résultat de mes dépôts de plainte est absolument négatif. On en revient au thème de l'épisode. Je regrette d'avoir porté plainte. Ces démarches m'ont stressée, mise en colère et déprimée. J'ai dépensé de l'argent en courrier recommandé, puis en timbre, en suivi psychologique, je préfère même pas compter. J'ai passé des dizaines, voire des centaines d'heures à m'occuper de ces plaintes. J'en ai encore pour des années si je veux en voir le bout, juste savoir ce que ça devient. Je pourrais abandonner ces plaintes, ne plus m'en occuper, mais j'en suis incapable. Je vais toujours au bout des choses, je suis persévérante. Mais dans ce cas, c'est une erreur, puisque ces plaintes me bouffent. Donc, j'ai décidé que je ne porterai plus plainte. Par exemple, l'agence France Presse. Donc, j'ai porté plainte contre le mec qui m'a harcelé sexuellement à l'agence France Presse, Arnaud Blin. Mais concrètement, quand j'ai dénoncé le harcèlement sexuel d'Arnaud Blin, quand j'étais encore à l'agence France Presse et que j'avais pas porté plainte, que j'ai juste dénoncé auprès de ma hiérarchie en 2018, ma hiérarchie a protégé Arnaud Blin et ne m'a pas protégé moi. Et après la fin de mon CDD, la AFP, l'agence France Presse, ne m'a plus proposé de CDD, alors que j'en avais eu des dizaines avant en fait. Et donc ça, en fait, en droit français, c'est considéré comme un licenciement. Enfin, en fait, c'est illégal de du jour au lendemain de virer quelqu'un parce qu'elle a dénoncé du harcèlement sexuel, puisque c'est pour ça qu'ils m'ont plus proposé de CDD. Et donc, concrètement, je pourrais aller au prud'homme, en fait. Je pourrais poursuivre l'AFP et Arnaud Blin au prud'homme. Je crois que je pourrais même faire deux poursuites différentes, parce que les prud'hommes, c'est complètement différent du pénal. On porte plainte au pénal, mais le prud'homme, on saisit les prud'hommes. Donc, je pourrais saisir les prud'hommes, par exemple, contre l'AFP pour... je sais pas comment on dit, licenciement abusif, enfin je sais plus comment on dit. Et je pourrais vraiment gagner en fait. Mais non, j'ai décidé que c'était fini pour moi la justice. Les prud'hommes pour moi c'est une forme de justice. Je me trompe pas, j'espère. Donc la prochaine fois que je subis des violences sexuelles, et je pourrais obtenir tellement de thunes aux prud'hommes, ce serait incroyable. Mais bon, bref. La prochaine fois que je subis des violences sexuelles, je pratiquerai juste l'autodéfense féministe. À ce sujet, vous pouvez écouter l'épisode 32 de Marie sans filtre qui s'appelle « Je pratique l'autodéfense féministe ». La prochaine fois que je subirai des violences sexuelles, je me barrerai. Et j'afficherai le gars sur les réseaux sociaux. Mais je ne porterai pas plainte, enfin j'espère. Donc, pour terminer, je cite le nom des agresseurs le plus souvent possible. Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. C'est le truc le plus efficace que j'ai trouvé pour l'instant. Parce que j'ai pas peur. La peur et la honte doivent changer de camp, vraiment. Et ça fonctionne vraiment, hein. Ces gars sont absolument terrorisés par moi. Donc, je vais les reciter à nouveau, parce que peut-être que vous les connaissez. Arnaud Blin, Paul Boulben, Yacine El Azaz, Yanis Bayouri. Je ne cite pas les deux autres. Parce que je n'ai pas leur nom de famille, Yevgeny. Et l'autre, voilà, j'ai pas leur nom exact. Donc ces quatre-là, Arnaud Blin, Paul Boulben, Yacine El Azaz, Yanis Bayouri. Si vous connaissez ces personnes, ou que vous connaissez des gens qui les connaissent, prévenez-les, ces mecs sont violents. Voilà. Je clôt cet épisode avec cette résolution. Citer le nom des hommes violents. C'est comme cela que j'ai rencontré d'autres victimes et que je me sens moins seule. Comme d'habitude, je vous invite à écouter mon second podcast Sologamy, qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes une fois par mois. Pour ce qui est de Marie sans fil, je reviens le mois prochain avec un nouvel épisode intime et politique. En attendant, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux pour me faire un retour sur cet épisode. Mon pseudo, c'est MarieAlbertFR. Si vous avez aimé ce 50e épisode, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles et le commenter sur votre plateforme d'écoute. Donc dites-moi en message privé si vous aussi vous regrettez d'avoir porté plainte, par exemple, ou pas. Si ça vous a été utile, si vous avez d'autres solutions à me proposer pour empêcher les hommes violents de violenter d'autres personnes. Peut-être que ça existe, ça m'intéresse, donc écrivez-moi. Ce mois-ci, je veux également remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Merci à Manon, Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Héloïse, Charlène et Tara pour leurs dons réguliers à ma cagnotte Tipeee. Chers auditeuristes, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour me faire un don ponctuel ou récurrent. Ça m'aidera beaucoup, 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 beaucoup. Merci. Et je voulais vous dire, mon premier livre, La puissance, récit féministe de mon tour du globe en cargo, est sorti fin 2022. Si vous voulez lire mes aventures de célibataire sur un bateau peuplé d'hommes marins, je vous recommande d'acheter ce roman. Il est court et accessible et vous y découvrirez mon histoire avec Yevgeny, le marin qui m'a agressé sexuellement. Il y a plein de péripéties avec ce gars qui s'appelle Jacob dans le livre, puisque j'ai changé le prénom de tout le monde. Vous pouvez commander La puissance chez votre libraire ou sur internet, j'ai mis un lien dans la description de l'épisode pour ce faire. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. C'est la fin du 50e épisode. Je suis extrêmement fière. Le mois prochain, on parlera sûrement de ma mère, justement, et des violences intrafamiliales. Voilà, on ne s'ennuie pas dans le monde du patriarcat et des violences. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous si c'est possible. Et je vous dis au mois prochain. Bisous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.